BW. Vue d'Allemagne.
Russland ist deshalb eine wachsende Bedrohung.
La Russie est une menace grandissante. Le chancelier allemand Olaf Scholz, il y a quelques jours à la conférence de presse de l'OTAN, sommet de l'Alliance militaire de défense commune entre Europe et Amérique du Nord, où décision a été prise de stationner prochainement des missiles américains de longue portée en Allemagne. Décision qui depuis provoque les menaces de la Russie de viser militairement les capitales européennes. On revient sur le dossier dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine plus joyeux, le grand reportage de la semaine au Brésil, où notre correspondante nous emmène à un concert d'enfants des favelas, des jeunes devenus musiciens hors pair grâce à un projet unique, récit à ne pas manquer. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus. L'annonce est donc passée un peu inaperçue du grand public, les lapsus et bourdes du président américain Joe Biden ayant un peu concentré l'attention. Mais c'était l'une des principales décisions prises au sommet de l'OTAN début juillet. L'alliance du traité de l'Atlantique Nord, alliance politique et militaire de défense commune entre 32 pays européens et d'Amérique du Nord, était réunie à Washington. C'est là que l'Allemagne et les États-Unis ont donc annoncé le déploiement de missiles américains longue portée sur le sol allemand à partir de 2026.
DW.
Alors de quels missiles parle-t-on ? Ils sont de trois types : missiles Tomahawk, SM-6 et missiles hypersoniques en voie de développement encore. Concrètement et sans entrer dans les détails, il s'agit d'engins pouvant être envoyés, tirés à plus de 2000 km de distance. De quoi donc pouvoir viser la Russie, notamment, car à vol d'oiseau, il y a 1600 km entre Berlin et Moscou.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Allianz für die Zukunft und die veränderte Sicherheitslage neu aufzustellen.
C'est le bon moment pour l'Alliance de se réorganiser pour l'avenir, pour faire face à l'évolution de la situation sécuritaire, dit Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors, il ne s'agit pas d'attaquer la Russie, mais on parle d'armes de dissuasion. En clair, on montre ses capacités de frappe, misant sur le fait que le camp adverse, ici la Russie donc, n'agira pas militairement pour éviter une escalade et des conséquences négatives.
DW.
Alors Moscou a vite réagi justement à cette annonce, le Kremlin se faisant très menaçant. Nous avons la capacité de contenir ces missiles, mais les victimes potentielles d'une riposte russe sont les capitales des pays européens, a dit le Kremlin. Moscou parle d'un retour à la guerre froide, faisant référence à ce qu'on appelle la crise des euromissiles dans les années 1980. À l'époque, les Soviétiques avaient déployé des missiles nucléaires à proximité des pays européens de l'OTAN. En réponse, l'alliance avec les États-Unis avait décidé de déployer aussi des missiles nucléaires, notamment en Allemagne. On avait craint un affrontement militaire nucléaire avant finalement la signature d'un traité de démantèlement de ces armes signé en 1987. Le Kremlin accuse donc aujourd'hui l'OTAN de relancer un scénario du même genre. Et on en parle avec notre invité, le docteur Christian Mölling, directeur du Centre pour la sécurité et la défense de la Société allemande de politique étrangère à Berlin. Bonjour monsieur Mölling.
Einen wunderschönen guten Tag.
Alors, première question, ce parallèle avec la guerre froide dont on parlait, qui met en avant Moscou, est-ce qu'il est valide selon vous ?
Je pense que la tendance à établir des parallèles historiques avec la guerre froide ne nous fait pas vraiment avancer. La Russie a violé à plusieurs reprises le traité existant sur les forces nucléaires en Europe, le traité FNI, et c'est pour cela qu'il n'est plus en vigueur. C'est pourquoi cette comparaison ne tient pas. Les pays de l'OTAN ont en plus déjà réagi très très tard à la menace croissante des missiles russes à Kaliningrad et ailleurs.
Alors, vous parlez d'armes russes stationnées à Kaliningrad. Où est-ce que cela se situe exactement et pourquoi c'est un point important dans ce dossier ?
Kaliningrad est une enclave russe, c'est-à-dire un petit îlot territorial situé entre la Pologne et les pays baltes. Elle est donc entourée par le territoire de l'OTAN, mais c'est un territoire russe. Des forces armées russes y sont traditionnellement stationnées et nous observons depuis le début ou le milieu des années 2010, 2013, 2014 que la Russie y déploie de plus en plus de missiles.
On ne sait pas si ces missiles sont conventionnels ou nucléaires, mais ils peuvent être équipés des deux types d'armements dans tous les cas. La Russie sait qu'il s'agit d'un message d'alerte pour tous, car il n'est pas possible de distinguer clairement si les ogives sont nucléaires ou uniquement conventionnelles, et elle n'a pas autorisé d'inspection.
Et conséquence donc, déploiement des armes américaines pour l'OTAN, déploiement d'armes qui doit être temporaire, car l'Europe ne dispose pas de ce type de missile encore, mais veut en construire. Plusieurs pays doivent s'allier, pour ça ils l'ont déjà annoncé, et on parle de 5 à 7 ans pour la construction de ces nouvelles armes. Est-ce que c'est un objectif qui est, selon vous, réaliste ou pas ?
L'objectif est réaliste d'un autre côté. Cela montre aussi que l'Europe a une fois de plus raté une évolution, qu'elle doit désormais recourir à des systèmes américains et qu'elle n'est pas souveraine pour décider des systèmes qu'elle fabrique et qu'elle utilise. Ainsi, l'Europe a de nouveau une capacité d'action limitée sans le soutien des États-Unis.
Une dernière question, tout ce dont on parle ici pourrait être remis en cause si Donald Trump, très critique envers l'OTAN, redevenait président en novembre aux États-Unis après la présidentielle. Est-ce qu'il pourrait, selon vous, revenir sur une telle décision ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ?
Les USA, auch unter dem Präsidenten Trump, haben kein Interesse.
Les États-Unis, même sous la présidence de Trump, n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe soit instable. Ils ont intérêt à ce que l'Europe apporte sa contribution à sa propre sécurité. Cette exigence est même juste. Mais donc cela signifie qu'il faut s'attendre à ce que les Américains ne se retirent pas de l'OTAN, mais qu'ils menacent de le faire. C'est autre chose. Ainsi, ils exerceraient une influence sur les Européens, certainement aussi en poussant à acheter des systèmes américains à l'avenir. Mais je ne pense pas que l'on doive immédiatement parler d'une remise en cause du déploiement des missiles à moyenne portée.
Christian Mölling, directeur du Centre pour la sécurité et la défense de la Société allemande de politique étrangère à Berlin. Merci d'avoir été avec nous et à noter qu'on ne sait pas combien d'armes seront stockées exactement en Allemagne encore. L'OTAN n'a rien dit à ce sujet encore.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, deuxième partie grand reportage, moins austère, je vous l'avais promis, je suis même certain que ça va vous donner le sourire. On prend la direction du Brésil et de Rio de Janeiro précisément, où près de 90 enfants d'une favela participent au projet financé par des dons, Favela Brass. Dès 5 ans, ces enfants des bidonvilles habitués à la précarité reçoivent des cours de musique. Ça fait 10 ans que ça dure et le projet marche tellement bien que Favela Brass a aujourd'hui sa propre fanfare et se produit même au Carnaval de Rio. Sarah Cozzolino nous raconte tout cela en musique, évidemment.
Nous sommes sur une terrasse de la favela de Pereira da Silva avec une vue imprenable sur la ville de Rio, sa baie et son pain de sucre. Ce samedi soir, les élèves du projet Favela Brass font danser les habitants du quartier. Catarina, au saxophone, a intégré le groupe il y a 10 ans quand elle en avait 8.
J'ai eu un coup de foudre pour le projet dès le premier jour. Ça m'a passionnée. Pour moi, la musique est capable de tout soigner. Elle est là quand tu es triste, quand tu es heureux. La musique m'apporte beaucoup de bonheur. J'aime faire ce que je fais, jouer de la musique. Avant le saxophone, je suis passée par la clarinette.
En entrant dans le projet, les enfants passent par beaucoup d'instruments de la famille des percussions et des cuivres avant de trouver celui qui leur plaît le plus. L'anglais Tom Ash, trompettiste de jazz, a fondé le projet Favela Brass en 2014.
Ils n'ont pas seulement une bonne formation technique. Ils apprennent à jouer correctement des instruments, à lire les partitions, ils font de la théorie, de l'improvisation. Mais le plus important, c'est que tout ça s'inscrit dans le contexte de la musique populaire, de la musique actuelle, la musique qu'on entend dans les rues de Rio aujourd'hui, la musique que les élèves écoutent, qui s'écoute dans les favelas.
En arrivant au Brésil, le musicien anglais a d'abord été impressionné par la richesse musicale de Rio et du carnaval, avant de se rendre compte que les musiciens de rue étaient majoritairement issus de la classe moyenne, car les cours de musique ou les instruments sont très chers. Une trompette équivaut à 2 salaires minimum au Brésil. Diego fait partie du groupe Caramuelas qui défile dans les rues pendant le carnaval de Rio et est invité dans la favela ce samedi soir.
C'est très beau de pouvoir jouer avec ces enfants qui, pour la plupart, viennent de la favela où on se trouve aujourd'hui. D'un point de vue social, c'est très important et c'est impressionnant. J'ai l'impression que Tom, le coordinateur du projet, nous a appelés pour nous humilier. Parce que c'est incroyable comme ces enfants jouent bien, ils jouent depuis plusieurs années. Et la rapidité d'apprentissage d'un enfant est bien plus élevée que pour quelqu'un de plus âgé comme moi.
Au tuba, Vinicius porte des lunettes de soleil malgré la nuit. Il est aveugle et a intégré le groupe il y a 2 ans.
Je jouais de la flûte à bec dans un parc où ils étaient en train de répéter. Tom m'a entendu jouer de la flûte et il a abordé ma mère. Il lui a proposé que j'intègre le projet et j'ai accepté. Immédiatement, évidemment.
Et pourtant, la mère de Vinicius avait bien essayé pendant de longues années de faire entrer son fils dans un groupe ou une association de musique sans succès.
À chaque fois que je cherchais une association de musique pour lui, on le regardait puis on nous refusait, sous prétexte qu'il fallait que les professeurs soient préparés pour ce type d'élèves. Mais pour ce projet de Favela Brass, la question ne s'est pas posée. Ils ont toujours été préparés. Ils l'ont accueilli, ont trouvé une façon de lui enseigner la musique d'une autre manière. Uniquement à travers l'écoute.
Aujourd'hui, Vinicius n'a toujours pas vraiment d'amis à l'école, mais une vraie bande d'amis soudés dans le projet. Ses deux autres frères ont aussi rejoint Favela Brass et leur mère Lucienne est impressionnée par leur évolution.
C'est énorme. Pour moi, c'est très gratifiant de voir combien ils se sont améliorés sur tous les plans. Ils sont plus concentrés, plus responsables. Ils se rendent compte de l'importance de l'engagement, d'étudier tous les jours, d'être présents aux répétitions ou représentations. Ils ont changé de manière générale, et pas seulement Vini, mais aussi ses frères.
Une fois majeurs, les élèves ont la possibilité d'intégrer le groupe professionnel Amigos da Cacilda, à travers lequel ils reçoivent un salaire. Vinicius en fait désormais partie, tout comme Raphaël. Il gagne sa vie comme musicien et professeur, complètement passionné par la trompette.
La première fois que j'ai fixé mes yeux sur cet instrument, je n'avais même pas les mots pour décrire combien ce son était beau, ce que ça transmettait. À chaque note que Tom jouait, c'est comme si j'étais ensorcelé. Je lui ai dit que j'avais très envie d'apprendre et il m'a prévenu que ça demanderait beaucoup de travail. Je lui ai dit que je ferais de mon mieux et aujourd'hui, je suis l'un des plus vieux trompettistes du projet.
Le répertoire de Favela Brass est très large, de la musique populaire brésilienne en passant par le funk, la pop internationale et le jazz. Mais pour Raphaël, ça ne fait aucun doute, ce qu'il préfère, c'est le jazz et l'improvisation.
Quand il nous a présenté le jazz, ça a été une réelle surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'un rythme comme ça soit si enivrant, qu'il nous fasse danser comme ça. Quand on joue, c'est un tel bonheur. C'est en jouant qu'on arrive à transmettre notre amour pour la musique et le public le ressent.
L'anglais qui avait commencé son projet chez lui avec 6 élèves qui étaient ses voisins est désormais fier de compter plus de 200 enfants dans son groupe et une majorité de filles habituellement peu présentes dans ce genre de formation musicale. Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro pour la Deutsche Welle.
Reportage à réécouter. On ne sait jamais si la musique vous a plu et à partager surtout via notre site et les applications de podcast où vous retrouvez Vue d'Allemagne tous les numéros. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro de Vue d'Allemagne. C'est rediffusion la semaine prochaine. À très bientôt. Tchuss!